nos différences.
À toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, le rendez-vous nature de Radio G, proposé par l'équipe du Plantis à Écuyer, le coworking rural collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Un lieu inspirant et inspiré en pleine nature qui vous propose de nombreuses activités en lien avec les végétaux pour mieux les utiliser, les connaître et en faire des alliés précieux. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et avec Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue, aujourd'hui à la console du studio, nous partons en nature à la découverte de l'histoire des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Prenez vos gants, car notre plante invitée ne manquera pas de piquer vos mains en même temps que votre curiosité, car il s'agit de l'ajon. La fin du mois de mars coïncide avec l'équinoxe de printemps, synonyme dans notre hémisphère de montée de sève, de bourgeons turgescents et de floraisons éclatantes. Il s'agit aussi du moment où le jour prend le pas sur la nuit. La lumière stimule végétaux et animaux. C'est aussi l'époque où les migrateurs remontent vers le nord et nous offrent leurs chants mélodieux et joyeux qui fêtent le retour de la vie. C'est ainsi que la fauvette des jardins revient tout au long des mois d'avril et de mai, d'un long périple au-delà du Sahara, où elle tient ses quartiers d'hiver. Malgré son nom, elle préfère s'installer loin des activités humaines, dans les jeunes boisements, les bords de rivières et les espaces oubliés des hommes, comme les landes, avec une prédilection pour les formations arbustives basses occupées par les ajoncs. Peu visible par son plumage brun-gris, pour les observateurs non avertis, nous la reconnaissons grâce à son chant rythmé et harmonieux qui s'accélère si nous approchons trop près. Un chant qui nous accompagnera dans cette émission. C'est donc sous le regard noir et malicieux de la fauvette que nous partons à la rencontre de l'ajon, notre plante invitée du jour. Les floraisons printanières qui illuminent les haies des champs et les bords de route embaument les chemins de leurs parfums légers et subtils. Proviennent essentiellement des épines, offrant ainsi les premiers nectars aux butineurs affamés. Le bal s'ouvre avec les fleurs blanches des épines noires, ainsi que le jaune éclatant des ajoncs au parfum d'amande ou de noix de coco, selon les expositions. Le promeneur, intrépide et curieux, qui s'approche d'eux, se trouve rapidement face à des fourrés denses et impénétrables. L'ajon se présente sous la forme d'un arbuste touffu de 2 mètres de large, pouvant atteindre 2,50 mètres de haut. Il se présente sous la forme de branches hérissées d'épines acérées de plusieurs centimètres de long et au feuillage persistant. Au stade jeune, les pousses vertes de l'ajon présentent des feuilles alternes en écailles à 3 lobes. Si vous prenez le temps d'observer de près ces épines, vous pourrez constater qu'elles sont chlorophylliennes, car en réalité, il s'agit de feuilles modifiées qui, au fil de l'évolution, se sont transformées en épines. Sans doute un mécanisme de défense salvateur pour éviter d'être dévorées par les herbivores. La grande quantité d'épines permet d'assurer la photosynthèse tout en préservant le feuillage et en limitant l'évaporation. Un juste compromis pour assurer sa survie. Si la floraison la plus intense a lieu de février à juin, l'ajon a la capacité de produire des fleurs toute l'année. Dans les légendes populaires, cette particularité naturelle serait attribuée à un don de Jésus pour remercier l'ajon d'avoir caché ses acolytes et il serait ainsi devenu l'ennemi juré du diable. Dans tous les cas, son pouvoir assure protection contre tous les ennemis. Il constitue d'admirables haies défensives très intéressantes, comme sur les chemins côtiers jalonnés de falaises. La floraison hivernale et parfumée attire de nombreux hyménoptères, comme l'abeille domestique, le bourdon ou encore les abeilles solitaires, qui constituent en réalité à elles seules 80% de la population des abeilles sauvages. Elles y recueillent le nectar et un pollen brun rougeâtre qui pourra donner un excellent miel associé aux autres fleurs comme celle de la bruyère. En échange, les butineurs assurent la fécondation croisée. On parle de pollinisation entomogame. Solitaires et très nombreuses, ces dernières recouvrent l'arbuste, telle une myriade de papillons aux ailes de couleur jaune d'or. Vous l'aurez compris, l'ajonc appartient à la grande famille des légumineuses papillonacées, récemment rebaptisée fabacée, comme son cousin le genêt, mais aussi la glycine, le pois ou encore le haricot. Une famille exceptionnelle qui a la capacité de fixer l'azote atmosphérique pour fabriquer ses molécules. Un pouvoir précieux pour s'installer dans les sols pauvres en matière organique azotée. Chaque fleur donne naissance en été à une gousse, autre trait de caractère familial, une gousse de 2 cm aux teintes brunes et violacées qui, à maturité, explose littéralement, projetant les graines tout autour. Ces graines, une fois germées, donneront naissance à d'autres ajoncs qui épaissiront davantage le buisson impénétrable. De ce fait, dans certaines régions, ils sont considérés comme invasifs. Plante emblématique de la côte atlantique, Oulex europaeus ou ajonc européen se rencontre dans les Landes européennes. Cette localisation est à l'origine de son nom de landier, d'ajonc épineux ou plus rarement de genêt épineux car il présente les mêmes fleurs jaunes papillonacées. L'ajonc apprécie les sols pauvres et arides à l'instar des sols rocheux armoricains. Très rustique, il supporte des températures négatives jusqu'à moins 15 degrés et se plaît en lisière ensoleillée orientée au sud. Plante pionnière très résistante aux maladies et aux ravageurs, l'ajonc s'implante facilement et durablement dans les milieux secs et hostiles. Il colonise volontiers les talus routiers ou autoroutiers de la façade atlantique, un excellent moyen d'ailleurs de limiter l'érosion des sols difficiles. En outre, au printemps, les talus s'embrasent littéralement de jaune pour le plus grand bonheur de nos yeux. L'ajonc peut aussi s'inviter dans les jardins, offrant, outre sa beauté, protection aux oiseaux et nourriture aux insectes. Il s'acclimate facilement avec les autres végétaux et ne nécessite aucun arrosage ni engrais. Dans la nature, il est souvent associé au paysage de landes, un milieu naturel formé d'arbustes et d'arbrisseaux qui forment des fourrés denses et impénétrables. La plupart d'entre eux appartiennent à la famille des bruyères et des légumineuses, comme l'ajonc, le genêt ou encore le cytise. Des végétaux trapus à la croissance lente, résistante au vent et à la sécheresse. Du fait de l'extension des activités humaines, qu'elles soient agricoles, urbaines ou touristiques, et de leur aspect inhospitalier, elles sont en voie de disparition en Europe et font l'objet de mesures de préservation et de protection. Ces terres ont été urbanisées en priorité car jugées de peu d'intérêt au niveau agricole, ce qui explique leur disparition. En France, on la retrouve majoritairement en Bretagne et dans le Massif central. Les Landes abritent une faune et une flore spécifiques, très riches. Il y a des mammifères, des oiseaux, des insectes. Elles offrent aussi des espaces de pâturage extensifs. Pour évoquer ces milieux, je vous invite à écouter l'interview d'un naturaliste pour nous parler des Landes, d'un espace naturel sensible du Maine-et-Loire. Bonjour Eric.
Bonjour.
Donc, merci d'avoir accepté cette interview. Donc, vous êtes botaniste à la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, hein, mais qui est une association qui est gérée à la fois par des professionnels et des bénévoles et qui, dont la mission est d'assurer la préservation de la biodiversité. Elle a un maillage sur tout le territoire et donc il y a une antenne dans le Maine-et-Loire, mais qui est coordonnée au niveau régional.
Donc en tout cas, vous, vous êtes botaniste professionnel au sein de cette structure. Et donc, en tant que botaniste, quelle est votre mission? En quoi consiste votre travail au sein de la LPO?
Alors du coup, moi, je suis effectivement le botaniste de la LPO Anjou. Mes missions sont assez variées, puisque je vais intervenir sur la connaissance, l'amélioration de la connaissance sur les différents sites, et puis sur des suivis. On met en place de la gestion ou de l'entretien sur certains espaces naturels remarquables, et on va essayer de suivre l'impact de cette gestion sur la flore. Donc ça peut être par la mise en place de placettes, d'inventaires, ou alors on va essayer de rechercher et d'inventorier les différentes espèces remarquables, patrimoniales, qui ont été inventoriées sur le site.
D'accord. Donc c'est un travail à la fois, j'ai envie de dire, de terrain et puis de quelque part de relation avec vos partenaires, en fait, d'après ce que j'ai compris.
Oui, c'est ça. C'est effectivement, de toute façon, ce sont des inventaires, des suivis de terrain qui sont à la bonne saison. Forcément, on va pas passer en hiver, donc c'est vraiment à l'époque de la floraison des espèces. Et puis l'objectif, c'est de pouvoir appuyer les travaux d'entretien ou de travaux de restauration, parce qu'on peut travailler également avec des syndicats de rivières. Syndicats intercommunaux qui mettent en place des opérations de restauration des cours d'eau.
Je vais faire le lien avec la plante du jour dans notre émission, qui est l'ajonc. Dans le cadre de cette émission, on a vu qu'il y avait un lien avec un milieu particulier qui s'appelle la lande. Et donc, vous, en tant que botaniste, comment vous pourriez décrire au grand public ce qu'est ce milieu très particulier de la lande?
Alors la lande, c'est un milieu qui est majoritairement formé par des petits arbustes, des sous-arbrisseaux qu'on va appeler. Donc c'est à la fois les ajoncs, donc puisqu'il y a plusieurs espèces d'ajoncs, il n'y en a pas qu'un seul. Et puis on peut trouver aussi les bruyères au sens large, hein, puisqu'on va trouver la fausse bruyère qu'on appelle aussi calune, et puis également des bruyères, des vraies bruyères, d'un genre particulier qui s'appelle le genre Erica en latin, l'ensemble en fait forme des milieux qui sont avec une végétation un petit peu ligneuse mais basse, souvent très colorée en plein été, parce que la floraison de ces espèces-là, notamment des bruyères, se fait principalement en été, c'est ça. Et donc on a des milieux qui se couvrent d'une couleur rose, souvent plus ou moins soutenue en plein été. Donc ce sont des milieux qui s'implantent sur des terres très pauvres. Les sols en général sont souvent très acides, et puis souvent superficiels, c'est-à-dire qu'on a vraiment la roche qui affleure. Donc sont toujours été des milieux très pauvres pour l'agriculture, hein, qui ont été souvent assez délaissés, ou alors uniquement utilisés en pâturage, parce que pour travailler ces sols-là, c'est souvent assez compliqué. Et puis, les rendements sont très faibles sur ce type de milieu. Et donc, ça a permis le développement de ce type d'habitat, qui est donc la lande, qui est très particulier, qui est souvent un stade intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir, au bout de l'évolution naturelle de la lande, on a une forêt. Mais ce sont souvent des milieux qui ont été créés et entretenus par l'homme, notamment par le pâturage avec des moutons notamment. Donc c'est pour ça que sur l'ouest de la France, notamment dans les Landes de Gascogne ou dans les Landes de Bretagne, on va pouvoir retrouver encore ce type de milieu, parce que le pâturage perdure, et puis il y a des conditions de sol qui sont qui limitent également l'implantation de...
Et donc dans le Maine-et-Loire, est-ce qu'il y a des endroits où il en reste quand même un petit peu des landes et qui pourraient être visibles par le grand public?
Oui, il reste effectivement quelques zones de landes dans le Maine-et-Loire, des reliquats, je dirais, de landes, notamment par exemple si on va sur le pourtour de l'étang de Saint-Nicolas en bordure d'Angers, on va trouver sur les promontoires Sur les affleurements justement de schiste, notamment des restes des lambeaux de landes justement qui sont entretenus actuellement parce qu'ils se sont progressivement refermés par les ligneux et donc on met en place dans le cadre du plan de gestion de ce site du pâturage pour restaurer ces landes. Alors, il y a du pâturage mais il y a également une mise en place de travaux de bûcheronnage, hein, il faut enlever les ligneux, justement, les arbres qui ont progressivement colonisé ces milieux-là pour faire réapparaître le cortège classique de la lande, entre autres avec la jonc, mais également les bruyères, et puis le cortège de faune qui est associé souvent à ces milieux, hein, puisque c'est vraiment des milieux très particuliers. Et donc, on a un cortège de faune, notamment en insectes, mais également en oiseaux, qui est associé à ces milieux.
En tout cas, je vous remercie, Eric, d'avoir partagé ce temps matinal avec nous sur Radio G.
Merci.
Vous êtes dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G sur 101.5 FM, et nous partons aujourd'hui à la découverte de la jonc. Très inflammable, la jonc est utilisée sec, tout comme la bruyère, comme bois de chauffage, voire d'allume-feu, ce qui est fort utile dans un paysage où les arbres se font rares et où les paysans ont de faibles revenus. Très calorifère, la température obtenue dans un four atteint 800 degrés, une chaleur équivalente à celle du charbon. Au XIXe siècle, en Angleterre, les boulangers l'utilisent pour alimenter leurs fours. Le feuillage de la jonc peut assurer la fonction de fourrage pendant la mauvaise saison, en témoigne encore le surnom de Saint-Foin d'hiver. Les tiges récoltées à l'état sauvage sont préalablement pilées ou écrasées pour éclater les épines. En Normandie, la jonc est semée dans les sols acides à la place du Saint-Foin, justement, pour assurer un fourrage jeune dépourvu d'épines. Les fleurs d'ajonc sont comestibles et ont la même saveur d'amande que leur parfum. Il est possible de les consommer crues, en petite quantité, dans des salades que leur teinte dorée égaye joyeusement. Séchées, elles parfument thés et infusions. Il est possible d'en confectionner des sirops ou des liqueurs à consommer avec modération. Les bourgeons floraux, quant à eux, peuvent être confits dans du vinaigre et s'utiliser comme les capres. C'est encore meilleur, bien sûr, dans un vinaigre de cidre bio de qualité, n'est-ce pas? La consommation des autres parties de la plante est quant à elle fortement déconseillée, car la plante est riche en alcaloïdes, et donc la consommation est interdite, notamment pour les gousses qui sont toxiques. Pour connaître les usages médicinaux de la jonc, retrouvons Christelle dans la chronique Le Bonheur et dans les Simples.
En médecine, la jonc possède des vertus sédatives, diurétiques et laxatives. Les feuilles et les tiges soignent les troubles digestifs, alors que les fleurs atténuent les problèmes de peau et les maux de gorge. Ces caractéristiques sont particulièrement intéressantes en florithérapie. Les fleurs de Bach existent depuis presque un siècle. Ils comprennent les élixirs floraux de 38 espèces et porte le nom de leur concepteur, le médecin spécialisé en bactériologie, Édouard Bach. Elles s'obtiennent par macération alcoolique. Entièrement naturelles, elles restaurent l'équilibre du corps en convertissant l'énergie négative en énergie positive. On en a bien besoin en ce moment. Ainsi, la fleur de Bach à jonc, ou élixir numéro 23, s'utilise pour améliorer la santé émotionnelle, tout particulièrement pour les personnes souffrant d'un sentiment de désespoir, doutant de leurs capacités et qui ont donc besoin de retrouver confiance en elles pour surmonter leurs difficultés. De par ses capacités à se développer sur des sols pauvres et inhospitaliers, la jonc incarne la capacité à se régénérer et à capter la lumière là où elle se trouve. Il symbolise donc la résilience dans l'adversité, car il se régénère après avoir été coupé ou brûlé. L'élixir floral d'Ajon est doté de propriétés bénéfiques et offre un soutien émotionnel à celles et ceux qui traversent une période de doute et de difficulté. Les gouttes s'administrent pures ou diluées par voie orale.
J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà la blanche hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au front, mais je dis que c'est folie d'être enchaînée plus longtemps. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants. Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps. La voilà la blanche hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera. Comme les femmes en noir, triste et seule, elle m'attendra. Et sans doute pense-t-elle que je suis en déraison. De la voir, mon cœur se serre là-bas devant la maison. La voilà la blanche hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait? J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. La voilà la blanche hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. La voilà la blanche hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche hermine, vive Fougère et Clisson.
Cette chanson de Gilles Servat est une excellente introduction pour illustrer le lien entre l'Ajon et la Bretagne, car depuis 2016, l'Ajon est devenue la plante emblématique de la Bretagne. On le surnomme la fleur d'or des Bretons. Il s'agit d'une espèce endémique de la région, Oulex breogani. De nombreux pays associent un végétal emblème en lien avec leur identité paysagère. Les pays au peuplement forestier abondant choisissent de préférence un arbre. Il en est ainsi du bouleau pour la Russie, du hêtre pour l'Allemagne ou encore de l'érable pour le Canada. Pour d'autres, c'est l'esprit des jardins et de l'horticulture qui tisse le lien entre les habitants et le pays. À l'instar de la rose pour l'Angleterre ou de la tulipe pour les Pays-Bas. Et il en est de même pour les pays celtiques, avec le trèfle en Irlande, le chardon en Écosse, l'ajon en Cornouailles ou encore le senin, une sorte de jonquille, au pays de Galles. La Bretagne était quant à elle plutôt incarnée par un animal, donc l'hermine. En 2016, l'Institut culturel de Bretagne a proposé aux Bretons de choisir le végétal qui puisse les représenter. Suite à un vote numérique, l'ajon a dominé largement les suffrages devant la bruyère, le genêt, l'hortensia ou encore le sarrasin, appelé autrement le blé noir. Cœur d'or et épine d'acier de la Bretagne, chantait la grande poétesse du Trégor, Angela Duval, pour le célébrer. Ce choix illustre tout à fait le lien indissociable entre les territoires et leurs paysages. Terminons cette séquence en poésie avec ce texte de José María Heredia au XIXe siècle, tiré du recueil Les Trophées. Pour Pour que le sang joyeux dompte l'esprit morose, il faut, tout parfumé du sel des goémons, que le souffle atlantique emplisse tes poumons. Arvor t'offre ses capes que la mer blanche arrose. L'ajon fleurit et la bruyère est déjà rose. La terre des vieux clans, des nains et des démons, amis, te garde encore sur le granit des monts, l'homme immobile auprès de l'immuable chose. Viens, partout tu verras, par les landes d'Arès, monter vers le ciel morne, infrangible si près, le menhir sous lequel gît la cendre du brave. Et l'océan, qui roule en lit d'algues d'or, l'île voluptueuse et la grande aussi mort, bercera ton corps triste à son murmure grave. Au fil du temps, les Bretons ont tissé des liens culturels forts avec leur paysage, illuminé par les ajoncs. Selon Véronique Barrault et Richard Ely, auteurs de « Les plantes des fées et autres esprits de la nature » aux éditions Plume de Carotte en 2014, les landes bretonnes où poussent les ajoncs par milliers sont le terrain de jeu favori des korrigans. La nuit venue, ils dansent joyeusement autour des menhirs, saisissent les promeneurs qui se sont attardés pour les entraîner dans leur ronde infernale. Peu en réchappent sans perdre la raison, voire la vie. Il fait dire que ces petits êtres sont infatigables et tournoient des heures durant, épuisant les forces de leurs victimes. Les fées de Haute-Bretagne possédaient une chèvre qui adorait manger les ajoncs au point de ne pas épargner ceux qui poussaient dans les champs. Les paysans déploraient ce fait et le jour où leur patience fut à bout, ils se munirent d'un bâton pour frapper la bête et la chasser de leur domaine. C'est alors qu'une fée se fit entendre. Elle les exhorta à laisser paître la chèvre en leur promettant que les ajoncs dévorés repousseraient aussitôt pour atteindre leur taille initiale. Ainsi firent les hommes, qui ne furent jamais déçus, bien au contraire, puisqu'ils devinrent riches. Les ajoncs forment des barrières naturelles infranchissables, si bien qu'elles furent utilisées à des rituels protecteurs pour éloigner sorcières, fées ou êtres maléfiques. En Irlande, il est courant de planter une haie d'ajoncs autour de la maison pour se protéger des fantômes. Les familles réunies en rituel font la prière suivante. La nuit, quand le bois craque, quand des centaines de petites pattes courent dans le grenier, quand des écharpes blanches flottent au-dessus de l'étang, surtout, resserrez-vous, gorse, entremêlez bien vos épines. Ne laissez pas passer ceux et celles qu'on ne nomme pas, à l'heure où ils se bousculent sur la lande pour venir rôder autour des lieux habités. Les Irlandais appellent en effet les ajoncs gorse. Des fagots sont brûlés à l'entrée des champs pour empêcher le petit peuple de voler le beurre des vaches. Disposées autour du lit, les branches d'ajoncs éloignent les fées qui perturbent le sommeil. Les pilons de baratte en ajoncs empêchent les sorciers d'ensorceler le beurre. Et dans les côtes d'Armor, les légendes racontent que les lutins y lisent domicile dans les fleurs d'ajoncs. Les Bretons, se déplaçant dans la lande, portent à leurs habits une fleur d'ajon afin que les lutins, respectueux de la plante, ne viennent pas les tourmenter. Toutes ces légendes et histoires ont certainement participé au choix de l'ajon par les Bretons. Une plante lumineuse et protectrice, présente naturellement et abondamment dans les landes bretonnes. Quittons-nous sur ces vers de Yves Pacalet. Les ajoncs en fleurs ont des doigts d'épines aux ongles d'or. La brume y accroche des lambeaux de coton gris. La pluie les asperge de mercure. On devine, au creux des buissons, les yeux effarouchés des korrigans discrets. Cette émission est terminée. Avant de nous quitter, vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter, réécouter, partager tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr dans la page émission Les Plantes Vagabondes. Si vous avez aimé, partagez ce moment nature autour de vous. Christelle, moi et toute l'équipe du Planty vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle plante.